Henri Rohorda, dit Balthazar, Apprendre ou à laisser, le programme de lecture du professeur d'optimisme, 1919. Partie 8. La noce à Thomas. Dans l'atmosphère amollissante des bureaux de l'État, où je gagne péniblement ma vie, je suis devenu un pacifiste convaincu, mais prudent. Toutefois, je refais de loin en loin, par atavisme, le geste martial par lequel mes aïeux, voire plus tard que tome 2, figure 37, accueillaient les ennemis de leur tribu. Cela m'arrive au nouvel an lorsqu'en flânant dans la foule pleine d'espérance, je me laisse pousser jusque devant la baraque où la noce à Thomas, défraîchie et avinée, attend le client qui, pour 4 sous, aura le droit de la bombarder jusqu'au bout. Peut-être, dans votre patelin, appelle-t-on ça le massacre des innocents. Mais qu'importe le nom pourvu qu'on ait l'ivresse. Le besoin de casser des gueules sera sans doute encore pendant quelques milliers d'années l'un des besoins fondamentaux de l'être humain. Et la noce à Thomas en verra encore de dur. Eh bien, puisque l'occasion s'en présente, essayons d'instruire le peuple. Il a raison de se faire la main de temps en temps, mais il choisit mal ses cibles. Qu'il garde ses projectiles pour des gaillards moins innocents que Thomas et que sa malheureuse épouse. Il faut que le 31 décembre prochain, l'homme du peuple arrêté devant la baraque des exécutions est en face de lui l'auguste souverain qui a voulu la guerre. Le César sera fait de boue séchée, et quelques boules bien dirigées suffiront pour produire son émiettement total et symbolique. À sa droite, il y aura le diplomate qu'il s'agira de faire basculer avec violence afin qu'il n'ose plus se charger de maintenir l'équilibre européen. La censure sera là aussi. On lui enverra son dû pour qu'elle comprenne qu'un peuple qui n'a plus le droit de parler en est réduit à s'exprimer par gestes. Puis le chef militaire aura son tour. Habitué à jouer avec la vie des autres, il excusera l'innocente espièglerie du badaud qui viendra lui détériorer la mâchoire. Et il ne faudra pas rater le journaliste qui, depuis 3 ans et demi, excite ceux qui se battent et qui ne s'est pas encore laissé entraîner par sa propre éloquence. Le patriote, que la guerre a trop enrichi, saura qu'on a beau s'élever très haut au-dessus du peuple, on finit toujours par avoir de ses nouvelles. Enfin, il conviendra de défoncer le gibus de l'évangéliste, qui depuis 2000 ans n'est pas encore parvenu à enseigner aux hommes la fraternité. Mauvais travail, fiasco complet. Mais il faudra que l'homme du peuple garde sa dernière boule pour son semblable, lequel est décidément trop gourde. Après quoi, ayant soulagé son âme, il ira boire un verre, en songeant à l'année nouvelle qui, pour lui, ressemblera beaucoup à la précédente, car la vie n'est pas un roman. Jusqu'au bout. Lecteur, j'ai à te dire des choses sérieuses. J'espère que tu liras mon article jusqu'au bout. Il y a des cas dans la vie où il faut aller jusqu'au bout. Et il y en a d'autres où il vaut mieux s'arrêter avant. Dans ma jeunesse, j'ai pris comme devise jusqu'au bout. Mais depuis bien souvent, j'ai constaté qu'une devise n'oblige à rien. Et d'abord, lorsque, dans les premiers jours du mois, j'arrive chez mon coiffeur, je lui dis régulièrement « Vous me couperez les cheveux, mais vous n'irez pas jusqu'au bout. » Quand j'étais petit, ma mère me disait sévèrement « Tu mangeras tes épinards jusqu'au bout. Aujourd'hui, je suis très grand. Et ma douce Clotilde nous dit parfois gentiment à Georges et à moi, « Vous n'avez pas besoin de boire cette dernière bouteille jusqu'au bout. » Elle a raison, Clotilde, car si nous finissons la bouteille, le lendemain, je me sens un peu flappy et je trouve pénible de faire ma besogne jusqu'au bout. Connaissez-vous la mélancolie qu'on éprouve en retrouvant de vieux papiers dans les tiroirs de son bureau? Que de beaux projets, que d'œuvres commencées. On était parti avec enthousiasme, mais on n'a pas été jusqu'au bout. En somme, on a eu peut-être raison, car y a-t-il rien de plus lamentable que ces écrivains ennuyeux qui, ayant décidé de composer un livre, l'ont écrit jusqu'au bout? Il ne nous reste à nous, lecteurs, qu'un seul moyen de défense, c'est de ne pas le lire jusqu'au bout. Un jour, dans un bar de Port Saïd, j'ai rencontré une Andalouse au sein bruni, dont le regard m'a ému plus profondément que n'auraient pu le faire les plus belles strophes du poète Campistron. Elle m'a dit « Jusqu'à quand m'aimeras-tu ?» Je lui ai répondu « Je t'aimerai toujours. » Eh bien, c'est triste à dire, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Victor Hugo a terminé un de ses poèmes par ces vers. « Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit, n'y pensons plus, dit-elle. Et moi, j'y pense toujours. » Toute sa vie, il a regretté de n'avoir pas été jusqu'au bout. Un soldat allemand, interné en Suisse, m'a raconté dernièrement sa vie dans les tranchées. Ce n'était pas drôle. Il y avait les obus, la mauvaise nourriture, et surtout la vermine. Il m'a dit « J'ai tout supporté, jusqu'au bout. » Le riche ne fume pas son cigare jusqu'au bout, mais le pauvre use ses chaussettes jusqu'au bout. Les riches veulent être bons pour les pauvres, mais engagés dans la voie de la charité, ils ont raison de ne jamais aller jusqu'au bout, car s'ils donnaient tout ce qu'ils possèdent, les rôles seraient changés et les pauvres, reconnaissants, se mettraient à être bons pour les riches et à leur tour, ils iraient jusqu'au bout. Ce serait une noble lutte de générosité, mais on n'en verrait pas le bout. D'une manière générale, quand on s'est engagé dans une mauvaise voie, il vaut mieux ne pas aller jusqu'au bout. Depuis le commencement de la guerre, des journalistes éloquents nous disent qu'ils lutteront jusqu'au triomphe final. Ils ne sont pas encore partis, mais leur ton est si martial que le doute n'est pas possible. Ils iront jusqu'au bout. Les peuples courageux ne supportent jamais leur gouvernement jusqu'au bout, car ils veulent que la justice puisse aller jusqu'au bout. Je ne voudrais pas abuser de votre patience jusqu'au bout. Mais je tiens à dire encore ceci. Pour des raisons que nous ne comprenons pas, nos parents nous ont lancés sur la route de la vie. Eh bien, nous sommes tous décidés, n'est-ce pas, à aller jusqu'au bout. Le mot de Cambronne. Discours prononcé à l'occasion du centenaire. Le 18 juin 1915. Messieurs, si l'histoire n'est pas totalement dépourvue de signification, cela tient à ce que les historiens ignorent un grand nombre des phénomènes du passé et que dans le choix et l'arrangement de ceux qu'ils connaissent, ils sont guidés par les besoins de leur propre logique ou par quelques soucis d'ordre esthétique ou moral. Ayant assumé la tâche difficile de vous révéler la vraie signification de Cambronne, je me vois obligé de faire comme ont fait mes illustres confrères, Tacite, Gibbon, Michelet, Taine, Ranke et quelques signobos de moindre importance, c'est-à-dire d'écarter tous les faits qui pourraient nuire à la solidité de ma thèse. Quand on défend une idée, on doit le faire loyalement et ne pas mettre autant de soin à l'affaiblir qu'à la fortifier. Je vous devais, messieurs, cette brève explication pour prévenir vos étonnements probables. Avant le 18 juin 1815, jour de la bataille de Waterloo, on ne parlait pas de Cambronne. Aucun témoin digne de foi ne l'avait vu. Le 19 juin, le lendemain, Cambronne avait déjà disparu. Disparu pour toujours. Pour celui qui y réfléchit, cette double constatation est d'une importance capitale. Des écrivains peu scrupuleux nous ont bien raconté l'enfance du grand homme, ses années de collège, les cigarettes qu'il allait fumer dans les cabinets, son mariage, et ils nous l'ont montré jusqu'au dernier moment de sa période de décrépitude. S'il faut en croire l'un d'eux, Madame Cambronne, une femme très bien élevée, lorsque les retentissantes trompettes de la renommée lui apportèrent le mot qui allait devenir le mot de la famille, aurait dit avec un air pincé « Mon mari est beaucoup trop comme il faut pour avoir dit ça !» Un savant allemand nous a encore appris qu'au moment de mourir, l'auguste vieillard n'avait plus que 3 dents. Une noire, une jaune et une bleue. Mais personne ne prend au sérieux ces biographes fantaisistes. Le peuple ne s'est pas laissé tromper par toute cette fausse érudition. Pour le peuple, Cambronne est le monsieur qui a dit merde. Le peuple a raison. Cambronne est tout entier dans ce mot. Cambronne n'est rien de plus que ce mot. En tant que vertébré vivant, fait de chair et d'os comme vous et moi, Cambronne n'a jamais existé. Cambronne n'est pas un individu. Cambronne est une voix. Une voix qui a retenti pour la première fois à Waterloo. Voix de l'humanité relevant enfin la tête. De l'humanité qui commence à en avoir assez et qui crânement et brièvement notifie à tous ses impudents tuteurs qu'elle vient de sortir de sa minorité. Vous le savez, messieurs, la fonction crée l'organe, et les créations spontanées de la nature sont innombrables. Un mot essentiel devait être dit. Il n'y a rien d'étrange à ce qu'une bouche, quelque part, se soit ouverte pour le laisser échapper. La bouche d'un canon pouvait suffire, et qui sait si ce n'est pas du sein de la terre maternelle qu'a jailli le cri qui signifie la noble révolte du troupeau humain, que ceux qui l'ont entendu l'aient attribué au légendaire Cambronne. Cela n'a pas d'importance. L'apostrophe célèbre n'est pas celle d'un général français vaincu. C'est la clameur de toute une race qui, depuis les temps de la Genèse, traîne sa misère sous l'indifférence des cieux. Pendant 2000 ans, l'homme avait dit « Amen ». Il avait dit « Amen » tous ceux qui portent l'auréole ou le gourdin de l'autorité. Il disait « Amen » après toutes les tuiles que la Providence laissait tomber sur le pauvre monde. C'est un grand soulagement, quand on a dit « Amen » pendant 20 siècles, de pouvoir exprimer un sentiment nouveau en disant « Merde !» Sans doute, la foule a eu, avant l'année 1815, de loin en loin, des velléités de révolte. Parfois, elle murmurait, on l'entendait faire C'était le commencement du mot. Mais, timide comme ceux qu'on a souvent punis, la foule n'osait pas dire le fond de sa pensée. Et c'est seulement le 18 juin 1815, à Waterloo, qu'une voix formidable, sortie d'une bouche inconnue, a lâché le mot libérateur. C'est après 20 ans de grandes tueries sur un champ de bataille, devant des milliers de morts et de mourants, qu'a éclaté enfin la protestation de l'être humain fraternel et pitoyable contre la dureté de la vie. Analysons ce sentiment complexe qui ne peut se traduire que par le mot « merde » suivi d'un point d'exclamation. D'abord, c'est mettre en doute l'excellence de l'univers que d'accueillir un événement par cette exclamation violente. Je vois donc dans notre vocable une expression très simple de l'irrespect transcendantal. D'autre part, il traduit cette insouciance profonde qui est appelée « je m'en foutisme » dans les milieux parlementaires. Celui-là se soucie davantage de la sincérité de son attitude que de son avancement, qui lance à son chef de bureau la réplique concise. Notre mot exprime aussi une ferme volonté. Il est le point d'orgue irrévocable que l'on met aux discussions que l'on ne veut pas continuer. Il peut contenir encore quelques éclats de notre colère. Enfin, dans une proportion qui varie avec le degré d'alacrité de notre âme, il contient quelque chose de léger, qui est de la joie enfantine, la joie de promener sous le nez de son adversaire le fumet d'un étron. Mon analyse est incomplète. Employé dans le mode mineur, le mot de Cambronne peut exprimer le désenchantement des êtres à qui la vie a fait trop de promesses. Mais, violente ou découragée, l'interjection historique garde toujours le même sens profond. Elle est la réponse naturelle de l'individu qui, devant le fait cosmique, brutal et nécessaire, affirme encore inutilement la légitimité de son espoir déçu. Elle est l'expression sommaire d'un individualisme irréductible. Nous ne nous étonnerons pas si c'est par un mot français que s'est exprimé un sentiment qui se retrouve à toutes les époques, au fond de toutes les âmes nobles. Et nous comprendrons aussi que le révolté emploie comme suprême injure le nom de ce qui n'a pas de ressort. Le bon citoyen, celui qui ne veut être qu'un rouage de la machine sociale, ou plus scientifiquement, une cellule du grand organisme, constitue avec ses congénères la pâte électorale indivise. Indistinct, noyé dans la masse tiède de ses égaux, il n'existe pas. Vous m'approuverez, messieurs, si j'envoie à ces êtres intégralement voués à la chose publique l'expression de mon mépris. L'État, ce n'est pas moi. Raisonnable, je ferai, avec bonne volonté, ma part du travail collectif. Enthousiaste, je ferai même un peu plus. Mais quand le représentant de l'ordre universel, le hideux fonctionnaire, viendra m'ordonner, au nom de l'intérêt général, d'éteindre les feux de mon âme, lorsqu'il tendra sa grosse main de percepteur vers ce qui n'appartient qu'à moi, il verra se dresser au seuil de la retraite inviolable où je vis seul, un dragon laconique qui lui lancera à la face le mot foudroyant de 1815. À l'approche de l'intrus, je prends conscience de mon individualité. Je dis merde, donc je suis. Honneur à la France. Puisse le Rhin glorieux protéger dans l'avenir contre les hordes disciplinées qui veulent organiser le monde, le peuple libre et goguenard qui leur répond merde. Donc, messieurs, le 18 juin 1815, l'homme devenu majeur a proclamé la séparation de son âme et de l'État. Conscient de la force qui a grandi en lui et qui désobéira toujours à toutes les lois, l'individu opposera désormais son cri au verbe du législateur. Sans force contre le poids des choses établies, vaincu d'avance, il n'accepte quand même pas la victoire de Dieu. Voilà ce qu'a crié sur le champ de bataille de Waterloo la voix symbolique de Cambronne. Cette voix ne se taira plus. Désormais, affranchie des timidités de notre enfance, chaque fois que se posera sur notre frêle nuque la griffe du destin. Nous aurons, pour dire la protestation de notre cœur blessé, la formule parfaite et définitive. Lorsqu'un dimanche matin, à l'heure du départ, notre geste impatient cassera le bouton de notre faux col, lorsque, pénétrant inopinément dans notre chambre à coucher, nous apercevrons notre fidèle Mélanie assise sur les genoux de l'homme du gaz, lorsque nous apprendrons que notre banquier charitable a donné aux pauvres les fonds que nous lui avons confiés, lorsque nous avalerons notre râtelier, chaque fois que la fatalité sournoise nous assènera un de ses grands coups, nous nous redresserons devant l'ennemi invisible et nous lui dirons « Merde !» Mon ventre. Je suis très malheureux, par moments. L'éducation que de nobles littéraires m'ont donnée ne m'a pas empêché de tomber en esclavage. Après avoir aimé la liberté avec exaltation, je suis devenue l'esclave de mon ventre. C'est du moins ce que mes amis me disent. Et j'ai fini par le croire. Ils me reprochent de tenir autant, et même davantage, au plaisir de la table qu'aux pures joies de l'esprit. Plus d'une fois, il est vrai, pour ne pas être privé d'un bon souper, j'ai renoncé à entendre l'éloquente conférence annoncée dans tous les journaux. La conférence, me disais-je, je pourrais la faire moi-même un autre jour, tandis qu'un bon souper peut être une chose unique, irremplaçable. Je suis un être matériel. Voilà. Le fait est que les gens parmi lesquels je vis ne me ressemblent pas. Depuis le 1er août 1914, ils laissent voir dans leur discours une préoccupation constante. Ils attendent, patients et confiants, le triomphe de la justice. Moi aussi, je l'attends. Je l'attends même depuis le jour lointain où j'ai reçu ma première fessée. Cela n'empêche pas que, quotidiennement, toujours aux mêmes heures, j'oublie mes rêves les plus généreux et je me mets à songer avec mélancolie à des filets de sol, à des râbles durables ou à des perdreaux aux choux. Je me le demande, suis-je seul de mon espèce? Suis-je un monstre? Eh bien non! J'ai vu des femmes élégantes prendre le thé chez une de leurs amies. Ce qu'elles bouffent! Et j'ai vu aussi, un certain samedi soir, dans un restaurant bien choisi, les plus hauts magistrats de notre canton se mettre à table. Leur visage était radieux. Ils n'avaient évidemment pensé qu'à ça toute la semaine. Que puis-je me dire encore pour atténuer le malaise que j'éprouve aujourd'hui en songeant à mon asservissement? Les gens qui n'ont aucun plaisir à manger de bonnes choses et à boire du bon vin ne valent pas mieux que moi. Regardez-les, ils ne sont pas joyeux. Ils ont un mauvais estomac, ils ont de sales têtes verdâtres. Et puis, Vauvenargues a dit, à moins que ce ne soit Pascal, les grandes pensées viennent du cœur. Or, les êtres d'élite ont du cœur au ventre. Il est donc fort possible que les plus belles pensées viennent du ventre. Oui, j'ai enfin compris mon cas. J'ai raison de ne pas établir une hiérarchie dans mes jouissances. Elles sont toutes de la même nature. Elles sont toutes spirituelles. Je puis être profondément émue par un certain Andante de Beethoven. Il y a, dans la littérature française, des vers dont la beauté n'a pas diminué pour moi depuis 20 ans. Et je connais l'ennoblissement passager que nous procure une indignation sincère. Mais parfois, un vieux sauterne nous déride vos petits pois m'ont aussi dilaté l'âme délicieusement. Toutes les minutes où l'on adore la vie se valent. mon ventre n'est pas un despote étranger devenu le maître de mon âme. Sans doute, mon âme est un ballon captif attaché au moyen d'un câble incassable à mon ventre trop lourd. Mais mon ventre est un laboratoire où s'élabore, mystérieuse chimie, le principe léger qui permet à mon âme de s'élever à 50 mètres au-dessus du sol. Quand j'ai bien mangé, je deviens généreux et mes pensées s'ennoblissent. Je deviens presque héroïque. Par contre, si 10 heures de suite, j'avais été privé de nourriture et qu'on vint m'apprendre que les Russes ont fait 12 000 prisonniers, je répondrais sincèrement, je m'en fous. Puisque mon âme et mon ventre sont unis à la manière des frères siamois, je suis heureux de l'entente cordiale qui s'est faite entre elle et lui. Que ce soit le ventre qui commande à l'âme, je l'admets aussi, car il est le personnage indispensable. Mais il a eu quelquefois le tort d'être déraisonnable, comme un tsar. Il faut que son gouvernement soit un gouvernement constitutionnel. De temps en temps, il a violé ma constitution. Et chaque fois, j'ai été malade.